Une grande consultation publique sur l'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne est lancée.
Un comité de bassin, donc une forme de démocratie participative.
Tenir compte effectivement des avis qui ont été donnés par le grand public.
Donnez votre avis en tant que citoyen jusqu'au 2 mai. Pour contribuer à une vision d'avenir pour l'eau,
on a un site, c'est Prenons soin de l'eau.
L'association SOS Loire Vivante vous informe. Découvrez aujourd'hui ce que l'on peut faire pour mieux gérer les quantités d'eau et les répartir entre les différents usagers. Bonjour Renaud Doma.
Bonjour.
Donc vous êtes président de l'association Rennes 43 qui est l'antenne France Nature Environnement dans le département de la Haute-Loire. Vous êtes également paysan et maraîcher bio et aujourd'hui on va parler avec vous des questions de gestion quantitative de la ressource en eau. C'est quelque chose que vous devez bien connaître en tant que paysan.
Oui, bien sûr, on subit, nous, tous les ans, des aléas, des fois un peu trop tôt, des fois pas assez. Et du coup, il faut jongler un petit peu avec ces aléas climatiques.
Alors, l'eau est un bien commun qu'il faut partager, mais bien sûr, voilà, les quantités disponibles vont varier d'une saison à l'autre et selon les années, selon les endroits. Donc, les hommes doivent s'organiser de plus en plus, notamment sur cette question de quantité. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par revoir nos besoins et favoriser les économies d'eau sur cette question-là?
Bien sûr, c'est un point de départ. Essayer, notamment dans le monde agricole, essayer de favoriser les cultures qui sont un peu moins gourmandes, les cultures à grande échelle. Je pense à la maïsiculture intensive qui est très gourmande en eau. Je pense que c'est ce type de modèle est aujourd'hui à changer. On voit, nous, de plus en plus fleurir, même en altitude, des maïs qui poussent sur plastique pour essayer de faire en sorte que même à 1000 mètres d'altitude, on réchauffe le sol à partir de plastique et on sème et on arrose. Alors, on voit fleurir un peu de partout les retenues collinaires. Pour nous, association de protection de la nature, ou même moi, en tant qu'agriculteur, je vois bien que c'est des modèles qui vont dans l'impasse, parce que le fait de stocker l'eau en hiver, forcément, ça a un impact sur les cours d'eau, les ruisseaux, les rivières, tout au long de l'année, et notamment en saison chaude, où ces espèces de bassins vont faire que l'eau qui arrive encore un petit peu à en sortir, faut espérer que justement qu'il y ait toujours des débits réservés pour les cours d'eau. Mais cette eau qui ressort est forcément beaucoup plus chaude et altère complètement les écosystèmes aquatiques. Alors nous, au sein du Rennes 43, on milite pour créer il y a un collectif que nous avons créé qui est le collectif pour une autre PAC, une autre politique agricole commune. C'est le pendant aussi de ce qui se fait au niveau national où il y a plus de 30 organisations qui ont réfléchi à une nouvelle politique agricole et où c'est plutôt le fait de financer la transition agroécologique des fermes, qui paraît être une priorité, pour rendre les sols stables et fertiles, au contraire de ce qu'on voit en maïsiculture intensive, où on va arroser les champs de fertilisants et de pesticides, qui vont avoir, au-delà des conséquences sur la quantité d'eau utilisée, mais des conséquences sur la qualité de l'eau des cours d'eau qui sont pollués, à partir d'engrais chimiques et de pesticides, mais aussi les nappes phréatiques. On s'en compte aujourd'hui, notamment dans pas mal de régions de France, dans le centre, en Bretagne, où les nappes phréatiques sont polluées. On retrouve des pesticides, par exemple le DDT, qui ont été interdits il y a plus de 30 ans. Donc il faut imaginer aujourd'hui que tout ce système agricole intensif aura un impact encore pendant plus d'une trentaine d'années sur la qualité de nos réserves d'eau actuelles.
Quelles genres de solutions et de nouvelles pistes sont envisageables?
Je parlais tout à l'heure donc de la réforme de la PAC et du coup, faut savoir qu'il y a 9 milliards d'euros qui sont reversés en France tous les ans et 20% des agriculteurs qui perçoivent 80% des aides, donc c'est assez inégal, mais en plus ça va un peu plus vers l'agriculture intensive que l'agriculture agroécologique. Donc si ces financements allaient pour la diversification et l'autonomie des fermes, on aurait déjà une marge de progression pour la préservation de la ressource en eau et pour réduire les impacts des aléas climatiques. C'est-à-dire que plus on a de cultures différenciées, plus on a de chances qu'il y en ait qui arrivent à survivre face aux aléas climatiques.
Notamment sur cette question de l'eau.
Notamment sur cette question de ressources en eau, puisque on sait qu'en 2050, on sait qu'une partie du département va avoir un tiers en moins d'eau, de précipitations qui vont tomber sur le département. Donc c'est assez considérable. Donc si l'agriculture ne commence pas à s'adapter, elle va forcément avoir des problèmes. Donc l'idée, c'est d'accompagner à la transition pour changer ce modèle agricole, de former des agriculteurs, mais aussi tous les conseillers agricoles et les formateurs de lycées agricoles qui doivent prendre en compte un peu plus cette question de résilience des fermes liée justement aux aléas climatiques et liée au manque d'eau. Il y a aussi le fait de pouvoir rémunérer les agriculteurs quand ils préservent leur environnement, quand ils préservent notamment les linéaires de haies qui ont un grand rôle à jouer dans le cadre de l'imprégnation de l'eau dans les sols et la lente restitution au moment en partie des sécheresses, qui est le rôle aussi que jouent les zones humides. Aujourd'hui, on voit là en Haute-Loire notamment encore des prairies humides qui sont drainées, alors que ce sont ce genre de milieux qui vont permettre d'atténuer les crues, mais aussi d'atténuer les sécheresses et les étiages. C'est-à-dire que les zones humides comme les haies vont avoir un petit peu un rôle d'éponge, et du coup, quand il pleut beaucoup, ben, ça va faire de la rétention, et quand on est en période de sécheresse, ça va faire de la restitution au cours d'eau. Donc c'est tout cela qu'il faut réussir à préserver, plutôt que de continuer à aménager des retenues collinaires qui détruisent justement en partie les zones humides et du coup la résistance un petit peu des cours d'eau à ces aléas aussi. Si on travaillait avec des semences paysannes vivantes et travailler sur des sols vivants avec un taux d'humus assez intéressant pour rendre les sols plus stables, eh ben on n'aurait plus besoin de ces retenues collinaires en choisissant les cultures les moins gourmandes, en ayant les bonnes semences et en travaillant sur sols vivants. On a besoin de beaucoup moins d'eau. C'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui, quoi.
Alors après, bien sûr, il y a des économies d'eau qui sont possibles sur des systèmes un peu plus techniques, les techniques d'arrosage ou d'autres types d'économies d'eau possibles.
On a tous vu à midi, en pleine chaleur, en pleine cagne, des gros asperceurs qui tournent. C'est en gros, il y a 25%, 35% de l'eau qui est envoyée, qui part directement en évaporation. L'idée, c'est d'arroser au bon moment, soit un peu tôt le matin, soit le soir. Premièrement, si on arrose en aspersion, on utilise aussi le goutte à goutte. L'eau qui sort du goutte à goutte va directement dans le sol, donc avec beaucoup moins de gâchis. On peut utiliser aussi des paillages, et pas des paillages plastiques, hein, je parle de paillages naturels à partir de paille, qui permettent justement à cette eau qu'on va mettre au goutte à goutte de ne pas s'évaporer trop vite. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça qui nous permettent de gagner en quantité d'eau et en étant moins obligé d'arroser.
Là, on voit bien avec vous que le monde agricole est quand même en train de mettre en place des solutions et que ces solutions doivent être plus généralisées dans les années à venir.
Tout à fait. Et alors pour les particuliers, je pense quelque chose qui peut être important, c'est d'avoir un tarif progressif en fonction de la consommation d'eau. C'est-à-dire pour moi, une quasi-gratuité pour les besoins primaires paraîtrait quasiment obligatoire. Il y a beaucoup de familles qui n'utilisent vraiment pas beaucoup d'eau et qui en ont besoin pour les besoins de base, boire, se laver, cuisiner. Et à partir du moment où on dépasse ces besoins, une tarification un peu plus élevée pour des gens éventuellement qui auraient le luxe d'avoir une piscine ou d'utiliser beaucoup plus d'eau pour laver plus régulièrement leur voiture ou des choses comme ça. Bah pour moi, ça serait pas complètement idiot d'avoir un tarif progressif pour faire en sorte que encourager tous les citoyens à des économies à leur échelle aussi.
Donc si vous deviez donner aux auditeurs un geste à faire pour économiser l'eau, qu'est-ce que ce serait ?
Alors des gestes, il y en a plein. Donc à notre échelle, ce qui consomme le plus d'eau dans la maison, c'est le bain et la douche. Donc forcément, couper l'eau quand on est en train de se laver, avoir des chasses d'eau économiques aussi, éviter les bains, préférer les douches. Enfin voilà, c'est ce genre de gestes quotidiens. Ou aussi pour aller plus large, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, pour plus d'agroécologie, ben forcément essayer d'aller consommer le plus des produits bio et locaux, en sachant que les agriculteurs, on peut les questionner et savoir exactement quelles pratiques ils peuvent avoir chez eux, et est-ce qu'ils font attention à la biodiversité, à l'environnement et à la ressource en eau.
Et finalement, pour réconcilier les agriculteurs et les autres usagers, simples citoyens, notamment dans ces moments un peu conflictuels durant l'été où l'eau peut manquer, comment vous voyez, quelles seraient les solutions pour vous pour éviter les conflits d'usage ?
Les solutions, déjà, c'est quand on nous dit qu'il faut faire attention à l'eau, et quand on sort de chez nous et qu'on voit des gros arrosages arrosés en plein milieu de l'après-midi ou en période la plus chaude, moi je peux comprendre qu'on peut être révolté, qu'on dise à quelque part on se fout un peu de notre gueule, quoi. Donc, pour réduire ces conflits d'usage, il faut qu'il y ait vraiment de l'intelligence de tous les côtés, du côté agricole, bien sûr, faire attention à la ressource, qu'on en soit conscient, qu'on s'adapte. Et de l'autre côté, prendre conscience aussi que l'eau, forcément, c'est un usage, c'est un bien commun, donc c'est un usage à partager. Et que d'un côté comme de l'autre, il faut faire attention, il faut respecter les arrêtés préfectoraux en période de sécheresse, ne pas arroser son gazon, éviter de remplir sa piscine et à arroser son jardin aux bonnes heures, quoi.
Parce que votre avis compte. Participez à la consultation sur l'eau sur le site internet Prenons soin de l'eau. Cette émission vous a été proposée par SOS Loire Vivante, Association de protection des rivières, avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.